à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Alice Vintenon, je suis maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne où j'enseigne la littérature française de la Renaissance. Je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches sur la fantaisie philosophique à la Renaissance que j'ai menée dans le cadre d'un doctorat en littérature française à l'université Paris-Ouest Nanterre, sous la direction d'Isabelle Pantin. Ces recherches ont été publiées sous une version remaniée en 2017 par la librairie Drault. Et ce travail a été récompensé en 2018 par le prix Monseigneur Marcel de l'Académie française. Je profite de l'occasion pour remercier l'Académie française de cette distinction et je remercie aussi très chaleureusement Canal Académie de son invitation à parler aujourd'hui de mon travail qui porte à la fois sur la littérature de la Renaissance et sur l'histoire des idées, car il concerne donc une notion, la fantaisie, qui est à la fois une catégorie esthétique et une notion philosophique. Alors, quelques mots sur cette notion de fantaisie philosophique qui donne son titre à mon ouvrage. C'est une notion que j'ai construite pour désigner une certaine catégorie de fiction qui, dans mon travail sur la littérature de la Renaissance, m'ont paru présenter des traits d'écriture communs. Première caractéristique, ce sont des fictions qui s'affichent comme philosophiques, des fictions qui revendiquent une dimension allégorique ou pédagogique. Deuxième aspect, l'intrigue de ces fictions est invraisemblable. Elles présentent, par exemple, des personnages ou des faits qui défient les lois naturelles. Et elles exhibent cette invraisemblance, suscitant ainsi le rire du lecteur ou le sourire. Parmi les fictions qui présentent ces caractéristiques, il y a des exemples bien connus et qui font partie des textes les plus fascinants peut-être de la littérature de la Renaissance. Je songe par exemple à la fantaisie médicale qu'est le voyage des serviteurs du géant Pantagruel dans son estomac. Les serviteurs de Pantagruel pénètrent dans son estomac dans des pommes de cuivre pour lui ôter ses humeurs corrompues et pour le soigner. Autre exemple, je pense à l'hippogriffe du Roland Furieux, ce cheval griffon qui permet aux chevaliers d'atteindre la lune et son vallon des choses perdues, où se trouvent donc toutes les choses perdues sur Terre par les hommes. C'est un épisode qui n'en finit pas encore aujourd'hui de faire rêver les illustrateurs et d'être réécrit par les auteurs de fiction. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de grands textes de la Renaissance présentaient cette alliance entre fantaisie fictionnelle et prétention philosophique. J'ai parlé déjà des livres rabelaisiens, mais il y a aussi leur modèle italien revendiqué, les Macarones de Folengo, un récit écrit en latin macaronique qui paraît pour la première fois en 1518. C'est un texte qui commence comme un roman de chevalerie burlesque et dans lequel le fantastique prend le dessus. Les protagonistes du récit, le chevalier Baldus et ses compagnons, terminent leur périple en apesanteur dans la demeure de fantaisie, sorte de caverne où volent donc comme des mouches ou comme des dragées de couleurs, des chimères et des concepts scolastiques. Le narrateur dit écrire cette histoire sous l'influence, je cite, d'une fantaisie plus que fantastique, source d'inspiration ambiguë que l'on peut identifier à la folie, une folie plus que folle, ou que l'on peut comprendre au contraire comme une fantaisie dont il faut dépasser l'apparence pour capter un sens caché. Donc c'est déjà l'ambiguïté de cette notion de fantaisie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Il y a d'autres textes qui se rattachent à ce modèle, que je n'ai pas tous étudiés dans mon travail, mais c'est pour montrer vraiment que c'est une catégorie importante à la Renaissance. À Lector, l'étrange récit de Barthélemy Hanno. Il y a aussi, par exemple, les hymnes des saisons de Ronsard, un cycle de poèmes qui sont consacrés donc à un sujet philosophique, les saisons de l'an, mais qui traitent ce sujet sous la forme de narration burlesque, également inspirée de Folengo, les Macaronis, dont je viens de parler. Les auteurs de fantaisie philosophique se lisent, se citent entre eux, s'imitent. Donc c'est vraiment un courant, hein, un véritable courant. Côté italien, je citerai aussi le Momus, une fantaisie mythologique de l'humaniste Alberti. Il y a aussi donc certains chants du Roland Furieux de l'Arioste, modèle d'ailleurs de Folengo, et certains textes de ce qu'on appelle les polygraphies italiens. Par exemple, les Mondi, des voyages extraordinaires de l'auteur Anton Francesco Doni. Cette pratique de la fiction intervient dans différents genres littéraires à la Renaissance. Bien sûr le roman, mais aussi la poésie. Donc j'ai parlé par exemple des Saisons de Ronsard. Mais aussi le récit bref. Mon étude se termine par l'évocation d'un recueil peu connu, La Nouvelle Fabrique des Excellents Traits de Vérité, de Philippe d'Alcrippe. Ce sont des très très courts récits qui reposent tous sur des situations et des coïncidences improbables et qui sont toujours accompagnés d'une morale tout à fait décalée par rapport au récit. Donc c'est un recueil extrêmement drôle et déroutant. Il existe donc à la Renaissance, on le voit, un corpus important de fiction qui sont caractérisés donc à la fois par leur invraisemblance et par la revendication plus ou moins sérieuse d'une profondeur philosophique, voire d'un sens caché. C'est même une spécificité de la Renaissance, même si ce mode d'écriture trouve quelques prolongements dans certaines comédies de Shakespeare, par exemple, ou aussi dans Les États et Empires de la Lune et du Soleil de Cyrano de Bergerac au XVIIe siècle. Alors, lorsque j'ai essayé de nommer cette catégorie de fiction, je me suis aperçue que la philosophie et la poétique de la Renaissance possédaient, pour les appréhender, des concepts précis, hérités souvent de l'Antiquité. D'abord, bien sûr, le terme de fantaisie, qui désigne, en philosophie, la faculté qui forge les images et qui les réagence. Du côté des poétiques, on trouve aussi une catégorie héritée de Cicéron, la fabula, fable, fiction, que Cicéron définit comme ni vrai ni vraisemblable. Plus tardivement aussi, dans les poétiques, on trouve le concept platonicien d'imitation fantastique, mimesis fantastique, une formule dont la Renaissance, avec Marcille Ficin, le commentaire du sophiste par Marcille Ficin, la Renaissance a gauchi le sens pour lui faire désigner des représentations qui s'écartent des formes réelles. Du côté des œuvres elles-mêmes, on trouve aussi des catégories. Les auteurs eux-mêmes ont essayé de nommer cette forme particulière de fiction. Chez Rabelais ou chez Barthélemy Hanau, on trouve des variations autour d'une formule narration fabuleuse, narratio fabulosa, une formule de Macrobe qui, à l'origine, désigne principalement les mythes platoniciens. Et à la Renaissance, cette formule a pu en fait être appliquée à de très nombreuses fictions. Donc son sens se trouve élargi. Donc on trouve de nombreuses expressions pour nommer ces fictions invraisemblables, mais chacune de ces expressions fait débat à l'époque et se révèle être fortement polysémique. J'ai donc préféré, pour plus de clarté, forger une catégorie a posteriori en proposant une définition. Celle que j'ai donnée tout à l'heure, donc à la fois l'invraisemblance et les prétentions philosophiques. Donc maintenant, je vais évoquer les questionnements qui ont été les miens dans l'étude de ces fictions. Donc j'ai constaté, comme je l'ai dit, que cette pratique de la fiction fantaisiste constituait une tendance forte à la Renaissance. Et donc la première question, ça a été de chercher à déterminer les causes de cette tendance. Pourquoi ce goût particulier des auteurs de la Renaissance et des humanistes pour l'invraisemblance comique. Autre question qui porte cette fois sur la dimension philosophique affichée par ces fictions. Si tant est qu'elles soient, comme le disent les auteurs, véritablement philosophiques, porteuses de signification, pourquoi choisir d'exprimer cette philosophie par la fable plutôt que par exemple par le discours argumenté, le discours philosophique plus classique ? Troisième type de questions, troisième série de questions, je me suis interrogée sur la réception de ces fictions. Par leur invraisemblance, par l'éthos de leur narrateur, la plupart de ces fictions exhibent leur fausseté et désamorcent l'illusion fictionnelle. Nous sommes déjà dans une situation de feintise ludique partagée, hein, pour reprendre la terminologie moderne, celle de Jean-Marie Schaeffer. Le lecteur, dans ces fictions, est tout autant que l'auteur conscient du caractère fictif du récit. Ce qui m'a permis, donc, dans mon travail, hein, d'infirmer une vision que l'on a parfois du lecteur de la Renaissance comme un esprit forcément naïf, crédule, qui serait incapable de différencier le récit fictionnel du récit factuel. Voilà, donc mon travail articule ces différents aspects et il se développe de la manière suivante. Donc d'abord, j'ai une série de chapitres qui constituent en fait une enquête historique et théorique sur le statut de la fiction non vraisemblable et de la fantaisie à la Renaissance. Donc c'est une enquête d'histoire des idées. Et d'autre part, des chapitres qui sont consacrés à l'étude des textes, donc aux études de cas. Et je vais d'abord évoquer ce second aspect, les études de cas donc qui portent dans mon livre sur 6 auteurs. Donc j'ai essayé d'éclairer le choix de la fantaisie philosophique, de cette forme littéraire, à la lumière de la philosophie et du parcours intellectuel des auteurs. Donc, je reviens sur l'exemple de Folengo, dont j'ai déjà parlé, l'auteur des Macaronis. Folengo est un ancien moine qui est en rupture avec son ordre, l'ordre des Bénédictins, au moment où il décide d'écrire les Macaronis. C'est aussi un lecteur et un admirateur passionné d'Érasme, et son choix d'écrire des fantaisies, des fictions folles, peut largement s'expliquer par sa lecture d'Érasme. Il écrit donc des fantaisies plus que fantastiques, comme il le dit lui-même, ce qui peut faire écho à la dialectique que met en œuvre l'éloge de la folie chez Érasme. En effet, par la voix de folie, ce texte, qui est une référence pour de nombreuses fantaisies philosophiques, donc ce texte met en évidence la folie qui mine la sagesse mondaine. Par exemple, celle des théologiens scolastiques et de tous ceux qui sont minés par l'orgueil, la philotie, ce qu'on appelle la philotie, l'amour de soi. Réciproquement, l'éloge de la folie fait apparaître la sagesse des marginaux, ceux que la société considère comme fous, mais qui, donc, en raison de cette humilité, cette absence de prétention, se révèlent disponibles à une forme de grâce divine. Donc, c'est un texte fondamental pour la plupart des auteurs que j'ai réunis, qui cherchent justement un langage littéraire qui ne puisse pas être suspecté d'orgueil, de dogmatisme, qui ne puisse pas être assimilé à justement cette philotie, cet amour de soi. Donc, la fiction fantaisiste a justement cette vertu d'être un discours qui se présente comme fou, et qui, de ce fait, affiche une forme d'humilité. Et aussi, c'est un discours qui exerce la vigilance critique du lecteur. Le lecteur ne peut en aucun cas recevoir ces fictions comme des discours d'autorité, et cela développe leur méfiance à l'égard, la méfiance des lecteurs à l'égard de tout type, justement, de discours d'autorité. Ces discours d'autorité qui sont, par exemple, chez Rabelais ou Folengo, incarnés par les théologiens de l'université, théologien de la Sorbonne, en l'occurrence chez Rabelais. Voilà, donc il y a vraiment la recherche chez Rabelais ou Folengo d'une forme littéraire qui soit vraiment adaptée à une philosophie consciente de ses limites, des limites de la raison humaine et des vertus de l'humilité. Cette recherche à la fois formelle et philosophique est nourrie par exemple chez Rabelais par la lecture de l'auteur grec Lucien de Samosate, un auteur du IIe siècle, qui est très apprécié des humanistes, notamment d'Érasme qui a été son éditeur. La critique humaniste du dogmatisme trouve une sorte de préfiguration dans les dialogues comiques de Lucien. Lucien de Samosate, qui, dans ses dialogues comiques, renvoie dos à dos les différentes écoles de philosophie, les stoïciens, les épicuriens, les platoniciens, en ridiculisant les philosophes qui représentent ces écoles. C'est un aspect sceptique de son écriture qui articule donc le rire et le fait de douter. Et c'est ce qu'a très bien étudié, par exemple, Nicolas Coréard, qui a été l'auteur d'une importante thèse sur le rapport entre lucianisme et scepticisme à la Renaissance. Voilà. Donc, dans mon travail, j'ai insisté sur un autre aspect de cette réception de Lucien, le fait que cette critique des philosophes se manifeste non seulement par le dialogue comique, mais aussi par un usage singulier de la fiction. La fiction que Lucien, par exemple, utilise dans ses histoires véritables, un voyage fantastique, et en l'associant à une posture éthique ambiguë. Dans les histoires véritables, ce récit absolument extraordinaire, le narrateur se présente dans le prologue comme un menteur qui avoue son propre mensonge, ce qui rend impossible à discerner, ce qui fait qu'il est impossible de discerner la frontière entre vérité et mensonge. Donc le narrateur affirme qu'il ne dira qu'une seule vérité, le fait qu'il ment, le fait de reconnaître qu'il ment, cet aveu de mensonge, et il s'oppose ainsi aux historiens qui, eux, prétendent toujours dire la vérité alors qu'ils racontent des fariboles et des faits qui n'ont pas eu lieu. Alors ce narrateur de Lucien, ce narrateur menteur qui avoue son mensonge, c'est vraiment une figure tutélaire pour comprendre ces fantaisies philosophiques de la Renaissance qui s'inspirent très souvent de cet aveu de mensonge, notamment en étant pris en charge par des narrateurs peu fiables qui renforcent l'incrédulité du lecteur. Il ne cesse, par exemple, de dire, aux moments les plus invraisemblables du récit, que tout est vrai, dans des protestations de vérité complètement bouffonnes. C'est le cas, par exemple, de l'Alcofribas de Rabelais, par exemple, lors de la naissance du géant Gargantua, dit au lecteur, bien sûr, vous ne pouvez avoir aucun doute sur la véracité des faits. Voilà. Alors, cette posture éthique du narrateur de Lucien, les auteurs de la Renaissance en augmentent l'ambiguïté et la complexité en l'articulant souvent au modèle de l'allégorie. Donc la vérité que revendique le menteur se déplace du plan factuel au plan philosophique. Et donc c'est cette articulation entre fantaisie et philosophie que j'explore dans le volet théorique de mon travail, dont je vais maintenant dire un mot. Donc il s'agit des premiers chapitres du livre, où j'essaie de resituer ces fictions dans leur contexte philosophique et dans le cadre de la réflexion qui est menée à la Renaissance sur la fantaisie. Donc cette réflexion se mène à plusieurs niveaux. D'abord du côté des philosophes, chez lesquels la faculté d'imagination suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité, en particulier sa capacité à produire des formes sans référent réel, sans équivalent réel, comme par exemple des monstres, ce qui a lieu par exemple dans la maladie ou dans le songe. Mais cette capacité à produire des formes nouvelles peut s'avérer aussi extrêmement féconde, en marquant, donc selon les philosophes ou les médecins de l'époque, en marquant l'autonomie de l'esprit à l'égard des sens. Et par exemple, le médecin Huarte dit que l'imagination peut s'avérer extrêmement utile, par exemple chez les musiciens, chez les médecins ou chez les hommes politiques. Pour le gouvernement d'une république, il faut avoir beaucoup d'imagination. Donc on reconnaît les mérites de cette faculté qui est du côté du neuf, de l'innovation, de l'originalité. Alors, la question du statut de la fantaisie se pose aussi parallèlement dans les poétiques italiennes et françaises. Si on les regarde rapidement, elles semblent systématiquement assimiler l'invraisemblance au faux et au mensonge. On sait l'importance de la philosophie de Platon et de sa condamnation de la mimésis à la Renaissance, qui porte sur vraiment toute fiction poétique, vraisemblable ou non, comme l'ont montré les travaux d'Anne Duprat ou de Thérèse Chevrolet. Autre texte influent qui paraît condamner la fantaisie, c'est l'art poétique d'Horace, qui condamne les chimères au profit d'une poésie qui resterait très proche du vrai, Proxima Veris. Mais donc à la Renaissance, ces positions contre l'exubérance fictionnelle sont nuancées par des arguments discordants. Des arguments qui valorisent notamment l'invention originale de l'artiste, on en a déjà parlé à propos des théories de l'imagination, notamment dans le débat sur les grotesques, où on valorise les peintres qui arrivent à s'émanciper du réel pour suivre une idée originale. La critique du mensonge fictionnel est aussi tempérée par les arguments forgés par les humanistes pour défendre la lecture des fables antiques face au procès en inutilité. Le recours au modèle de l'allégorie se systématise en effet à la Renaissance, à partir du XIVe et du XVe siècle, pour justifier les libertés que prend la fiction avec le réel. C'est le cas, par exemple, dans la généalogie des dieux païens de Boccace, qui applique aux fables païennes un argument à l'origine appliqué au récit biblique, qui distingue le faux du récit, de la fiction, le faux poétique, et le faux du menteur, parce que finalement le faux poétique ne serait pas animé par l'intention de tromper et aurait des mérites pédagogiques. Et donc Boccace en vient par exemple à célébrer l'invraisemblance des fables d'Ésope ou des récits de métamorphose qui auraient tous un sens caché. Pour lui, l'obscur, le composite et même l'incohérent ou l'absurde sont considérés comme d'éventuels marqueurs chargés d'indiquer au lecteur qu'il ne doit pas prendre à la lettre ce qu'il lit, mais chercher un sens caché au récit. Un texte antique du 3e siècle après Jésus-Christ le dit très bien, c'est la vie d'Apollonios de Tyane dans un passage sur Ésope où le personnage principal, le mage Philostrate, dit que dans les fables d'Ésope, il est impossible de ne pas se rendre compte qu'on a affaire à un discours fin, fictif, controuvé. Et donc, il est impossible de ne pas se rendre compte que ce discours est un manteau, une couverture pour des enseignements qui, eux, sont vrais. Donc on arrive à une idée très paradoxale, moins une fiction est vraisemblable, moins elle est trompeuse. Plus elle est fantaisiste, plus elle est susceptible d'être reçue comme allégorique par le lecteur. Autrement dit, le récit le plus fantaisiste, le plus exubérant, pourrait s'avérer être le plus véridique, si du moins l'auteur est animé de la volonté d'instruire. À la Renaissance, cette dialectique, ce paradoxe, est pris au sérieux par les auteurs de fantaisie philosophique qui, souvent, en fait, s'inspirent de cette défense de la fiction en mettant en place des protocoles de lecture allégoriques qui sont très souvent ambigus. C'est notamment le cas chez Folengo ou Rabelais, qui tous deux invitent le lecteur à chercher des sens cachés, mais laissent aussi entendre au lecteur que ces efforts interprétatifs pourraient bien être dispensé en pure perte, que le texte pourrait n'être que fiction, que fantaisie. Et dans ces textes, il est souvent difficile de trancher, puisqu'on est dans des fictions qui témoignent à la fois du prestige de l'allégorie et de la crise qu'elle traverse au XVIe siècle. Donc ces fictions s'inscrivent dans une tradition qui rappelle celle des grotesques, j'en ai déjà parlé, des grotesques en histoire de l'art, ou de certaines poésies hermétiques, notamment celle du Florentin Il Burchiello, qui se joue du désir de sens du lecteur en lui soumettant un objet bizarre dont rien ne garantit qu'on puisse trouver la clé de son mystère. Alors, cette alliance inattendue du comique et de la perplexité, du plaisir de lecture et de l'énigmatique que j'ai essayé de faire ressortir, cette alliance donc paradoxale fait partie des aspects qui m'ont vraiment passionnée dans ces fantaisies philosophiques de la Renaissance. Et c'est aussi ce qui fait pour moi leur richesse inépuisable, ce qui fait qu'on peut encore les étudier aujourd'hui, être séduit par elles et leur consacrer vraiment un travail vraiment infini, puisque, encore une fois, cette question du sens n'est pas près d'être résolue.